Merci beaucoup Rachel, c'est trop. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est un très très grand honneur d'être devant vous ce soir et je tenais à vraiment remercier Rachel et Julien pour tout le travail qu'ils ont fait. Je ne serais pas devant vous sans eux, donc merci pour votre confiance. Je suis assez émue en fait de présenter ces deux ouvrages qui sont pour moi le fruit de ma névrose en fait. Et donc d'une névrose, on arrive à quatre rendez-vous et donc c'est très beau. Enfin donc merci d'être là ce soir. Donc Les fragments d'une histoire globale de l'art, c'est un livre que j'ai réalisé à l'occasion d'un cours à Paris Sciences et Lettres et que j'ai réalisé avec des étudiantes et étudiants de troisième année de licence. Et on a voulu essayer de brosser une histoire longue, une histoire transnationale de l'art, et on l'a décliné en différents chapitres. Je vais essayer de parler de quelques œuvres qui sont au musée du Quai Branly et qui peuvent se rattacher en fait à cet ouvrage. Mais c'est surtout le second ouvrage que je vais essayer d'explorer avec vous. On va essayer d'explorer le marché de l'art, et surtout par le prisme des ventes aux enchères publiques, en essayant voilà, d'étudier les préférences des objets, également mettre en lien ses goûts en fait, dans l'histoire avec la géopolitique de la France. Donc ça, c'est notre pari ce soir. Et quand j'ai débuté en fait, en recherche, je voulais absolument étudier le marché de l'art. Et donc, j'ai commencé par essayer de trouver des archives de marchands. Et vous avez reconnu en haut à gauche Paul Durand-Ruel, le fameux marchand des impressionnistes. Et le problème, c'est que je n'avais pas forcément accès à toutes les archives. Et j'ai fait un stage avec Sylvie Patry, qui est actuellement la directrice des peintures au musée d'Orsay. Et à cette époque-là, donc j'étais encore un peu plus jeune, on va dire. Et j'ai fait un stage avec elle au musée d'Orsay et elle m'a ouvert, disons, les yeux sur une source qui est absolument merveilleuse pour comprendre le marché de l'art et pour comprendre, en fait, pour compenser le manque d'archives privées. Parce que c'est très difficile d'avoir accès à des archives de marchands. Par exemple, pour Paul Durand-Ruel, il y a eu pas mal de clauses pour ces archives. Et même pour n'importe quelle galerie privée, vous pouvez ne pas avoir accès au prix ou au contrat. Donc il y a des biais et c'est compliqué d'avoir accès au marché de l'art. Donc ce que m'a offert Sylvie Patry, c'est cette possibilité d'accéder à une source. Et là, vous voyez cette source, on y accède aux archives de Paris, donc là, dans des conditions parfois extrêmes. Et en fait, j'y ai passé 3 ans pour ma thèse. Donc les archives de Paris, qui sont aux Portes des Lilas, conservent un fonds très important, c'est celui des commissaires-priseurs de la ville de Paris. Et dans ces archives de commissaires-priseurs, on a accès aux procès-verbaux des ventes aux enchères publiques. Là, par exemple, c'est le procès-verbal de la vente de l'atelier, vous voyez en haut, de Jules Breton. Les procès-verbaux sont rédigés, bon, aujourd'hui ils ne sont plus rédigés à la main, mais à l'époque ils étaient rédigés par un greffier ou un clerc. Vous voyez ici donc l'auteur du délit, si je puis dire. Et donc ces procès-verbaux sont assez utiles puisqu'ils présentent ici cette colonne le numéro de catalogue de vente. Et pour chaque objet, on a le prix d'adjudication hors frais. Et on a le nom des acquéreurs avec leurs adresses. Donc vous imaginez bien que pour tous les objets qui sont passés en vente, on peut savoir qui vend, qui achète et à quel prix, et avec l'adresse parfois de l'adjudicataire. Ce qui est une source incomparable pour étudier le marché de l'art. Donc par exemple, si vous vous amusez à faire le même travail que j'ai fait pendant ces 3 années, ici, si je prends un exemple, on a le numéro 2 dans le catalogue de vente. C'est un autre, en l'occurrence, c'était un autre tableau qui a été adjugé à, hein, si vous savez lire, enfin, si vous savez lire, je veux dire, mais si vous savez déchiffrer, parce qu'honnêtement, c'est une écriture de chat, et là, c'est pas le pire. Hein. Donc, Nodler, et ce tableau a été vendu 18 000 francs, et on retrouve, en fait, ici, en toute lettres, le prix d'adjudication. Donc, ce que j'ai fait, je me suis amusée à associer par le numéro de catalogue de vente le catalogue de vente et le procès-verbal. Comme ça, j'avais accès à toute l'information disponible sur les objets qui étaient vendus en vente publique à Paris. Donc, dans ma névrose, comme je vous disais en introduction, j'ai recopié à la main tous les catalogues de vente avec toutes les descriptions pour tout. J'ai fait un gros tableur Excel, vous voyez, j'ai tout mis. Et ensuite, j'ai associé grâce au numéro de catalogue de vente, la description de l'objet et l'acheteur avec le prix d'adjudication. Donc là, si je ne me suis pas trompée, vous voyez, prix d'adjudication du PV, c'est la deuxième ligne, Nodler, 18 000 francs. Et j'ai fait ce travail pour ce nombre d'objets. Donc plus de 200 000 tableaux, dessins et sculptures. Après des objets asiatiques, et c'est pour ça en fait, ce que je vais présenter devant vous aujourd'hui. Des objets dits orientaux, ce sera la prochaine séance. Des antiquités et des objets dits primitifs et ou précolombiens. Et ça, j'ai fait ce travail avec une chercheuse qui s'appelle Élodie Vaudry et qui a publié justement sa thèse. Peut-être vous la connaissez sûrement. Elle a travaillé en fait sur la réception des arts précolombiens dans l'entre-deux-guerres. Elle a commencé au XIXe siècle. Donc ce travail-là, ce corpus, on l'a fait toutes les deux. Et par plaisir personnel, j'ai vu qu'il y avait également des ventes d'arbres nains et je me suis amusée à faire ce travail également pour des bonsaïs. Donc là, ce qui, disons, associait tous ces segments, c'était la thématique du lancement de nouveaux marchés artistiques. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, certains artistes décident de se lancer, de faire le pari des enchères publiques? Comment lance-t-on un nouveau segment? Et qu'est-ce qui fait qu'un segment ou qu'un artiste, une œuvre va marcher ou pas? Quelle est également l'évolution des préférences sur un temps très long? Les procès-verbaux sont généralement disponibles à partir du début du XIXe siècle pour des raisons de données. J'ai commencé en 1830 et je me suis arrêtée en 1939, là où commence Emmanuel Pollack. Et vous avez également sûrement lu son ouvrage sur le marché de l'art sous l'occupation, qui est disponible chez Talendier. Donc, je me suis arrêtée là où commençait Emmanuel Pollack. Et ça a donné ce livre. Bon, la jaquette est un peu différente, mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir publier ma thèse chez Classique Garnier. Grâce à une subvention assez conséquente, j'ai pu mettre tous mes graphiques. Et ce qui est une chance dans le monde aussi de l'édition, parce que ce n'est pas, disons, des conditions aussi confortables, c'est vraiment une chance. Donc c'est aujourd'hui, on va essayer de décliner, explorer le marché des objets extra-européens en quatre séances. J'ai essayé avec Rachel, on a pensé que le mieux c'était de diviser aussi en aires culturelles, en aires géographiques, de commencer par l'Asie, de continuer sur le thème des orientalismes et ensuite d'explorer l'Amérique et de terminer sur, disons, les arts océaniens et d'Afrique subsaharienne. Donc voilà pour nos quatre rendez-vous et je vous propose de décliner, d'essayer d'explorer ce titre qui fait référence, bon, maladroitement à Mallarmé, donc abolir le bibelot asiatique. Donc, il y a des objets au musée du Quai Branly qui sont bon, très, très anciens, qu'on trouve dans mon ouvrage sur les fragments d'une histoire globale de l'art. Et ce sont des objets que je n'ai pas pris en compte dans mon corpus parce qu'ils sont beaucoup plus anciens, mais je voulais vous en dire deux mots. Donc, c'est cette coupelle qu'on trouve dans les collections du musée. Elle provient des fours de Jing Deshen, pardon pour mon. Je parle très mal, je ne parle pas du tout chinois. Donc, Jing de Shen, et la caractéristique, c'est que c'est une porcelaine déjà d'exportation. Une porcelaine en fait, qui est prévue, qui est façonnée dans les fours de Jing de Shen, justement, et qui est orientée vers de nouveau des marchés donc extra-asiatiques. En l'occurrence, il y a eu tout un pan de cette porcelaine qu'on appelait la porcelaine crack. Kraak, une porcelaine en fait des carracks, c'est-à-dire des bateaux d'exportation portugais. Et donc ce type de vaisselle inonde totalement le marché européen, enfin un certain type de clientèle. Hein. Et notamment, vous reconnaissez ce type de plat en fait, de porcelaine crack dans dans beaucoup de tableaux du siècle d'or hollandais. Donc c'est la première mondialisation, si on peut dire, au XVIIe siècle. fin 16e, début 17e siècle. Et cette porcelaine-là est justement prévue pour la clientèle européenne, notamment, par exemple, des assiettes à soupe. Quand on va dans un restaurant japonais, on trouve difficilement des assiettes à soupe, disons, aussi larges. Normalement, on a des petits bols parce que, disons, la texture de la soupe n'est pas la même qu'en Europe. Et donc, les potiers de Jingdezhen façonnent des objets vraiment pour un autre public. Donc, déjà, on a. Enfin, comment dire? Les objets asiatiques n'apparaissent pas au XIXe siècle en Europe, ils apparaissent bien plus tôt en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir du XIXe siècle. Et ce qui se, ces objets n'étaient pas du tout étrangers, mais ce qu'on voyait surtout, c'était des objets qui étaient qu'on appelle des objets montés, des vases qui étaient, disons, entourés d'une monture en bronze. Donc, par exemple, ici, on retrouve des céramiques de la porcelaine de Jingdezhen qui imitait un style imari japonais. Je n'entre pas dans les détails, mais enfin, tout est un peu plus détaillé dans le livre des fragments. Mais vous voyez que la valeur d'authenticité ici n'est pas du tout prise en compte. On s'en fiche que l'objet soit conservé dans sa, entre guillemets, pureté, dans son authenticité. Vous voyez que l'objet ici est encadré par une monture européenne. Et donc c'est cette monture européenne qui fait la valeur de la céramique, ce qui fait la valeur de l'objet, sa préciosité. Donc la Chine, le Japon sont rêvés, sont fantasmés, et on s'en fiche, entre guillemets, que ces objets soient intacts, soient authentiques. Donc voilà à peu près le contexte, vous voyez, dans lequel se trouve l'Europe au début du XIXe siècle. Et je vais commencer cet exposé, donc trois temps, trois moments en fait qui vont scander cette abolition du bibelot asiatique. D'abord, vous montrer que à partir des années 1860, on sort de ce régime des objets asiatiques assez peu nombreux, réservés à une élite et qui trouvent d'autant plus de valeur qu'ils sont montés, recouverts d'une monture. D'accord, encerclé d'une monture, on quitte ce régime en fait d'historicité, on quitte ce régime de valorisation pour un autre régime, et c'est ce que j'appelle l'Asie sous le marteau. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Asie massivement, des objets asiatiques en provenance de la Chine et du Japon vont affluer dans les boutiques européennes, principalement à Londres et à Paris. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le tournant en fait qui fait qu'on change d'un régime d'historicité à un autre? Ben, ce tournant, voyons, on peut le voir justement autour des années 1860. Donc là, j'ai regardé le nombre d'objets en provenance d'Asie qui sont mentionnés comme tels dans les catalogues de vente. Vous voyez, en 1852, à Drouot, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 31. Et progressivement, à la fin des années 1850 et surtout à partir des années 1860, dans les sondages que j'ai pu faire, il y a un bond quantitatif qui est majeur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est en lien avec la géopolitique, c'est qu'il y a eu une ouverture forcée de la Chine et du Japon en 1858 et 1860. Et vous connaissez sûrement cette histoire, enfin, et on en a beaucoup reparlé, c'est, disons, cette ouverture par la force, une ouverture commerciale, et qui s'est illustrée par un épisode particulièrement sanglant, c'est celui du pillage du palais d'été à Pékin par les troupes françaises et britanniques en 1860. Donc ça a été un épisode majeur dans l'histoire du marché pour les objets asiatiques. Parce que justement, les troupes ont pillé, saccagé ce Versailles chinois. En fait, c'était un palais qui avait été conçu par les empereurs au XVIIIe siècle comme un modèle, en fait, un peu une imitation à la chinoise de Versailles. Et donc, cet épisode vraiment sanglant va avoir un impact sur le marché de l'art en France. Et en Grande-Bretagne, c'est un épisode également qui fait l'actualité, notamment à la vente Berger Saint-Laurent en 2009. Il y a eu ces deux têtes, hein, donc de lapin et tête de rat, en fait, qui étaient, qui provenaient, enfin, qui étaient, disons, qui provenaient d'une fontaine dans ce palais d'été et qui ont été justement, qui sont réapparus au moment de la vente Bergère Saint-Laurent. Et finalement, après des péripéties, la France a restitué, enfin, donné ces têtes du Yuanmingguan, ce qui veut dire c'est le palais d'été de Pékin, a donné ses têtes à l'État chinois. Cet épisode du palais d'été, du pillage du palais d'été, a eu une répercussion immédiate à l'hôtel Drouot. Donc à l'hôtel Drouot qui venait à peine d'être construit, il a été construit et inauguré en 1852. Et vous voyez, 10 ans après, juste après cet épisode sanglant du pillage du palais d'été, vous voyez qu'il y a des ventes tout de suite qui apparaissent, des ventes d'objets provenant du pillage du palais d'été qui apparaissent. Donc la première, elle a lieu en décembre 1861. Et on parle beaucoup des questions de provenance et de restitution maintenant, vous le savez très bien. Et ce qu'on peut enfin, le mode de restitution, c'est de regarder si le consentement a été, si l'objet a été, disons, échangé avec un consentement. C'est la question de l'administration du consentement. Le problème, et j'attire tout de suite votre attention sur ce point, quand vous avez des objets qui sont passés en vente à l'hôtel Drouot, dans des ventes, là, dans les ventes en bleu foncé, ce sont des ventes où on est sûr, selon le catalogue, que tous les objets proviennent du palais d'été. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de ventes, là vous voyez en bleu ciel, où, selon le titre du catalogue, on dit que la plupart des objets proviennent du palais d'été. À ce moment-là, comment vous faites pour choisir? Quel est l'objet? Est-ce que, mettons, s'il y a un seul objet qui provient du pillage du palais d'été, a priori, même les commissaires-priseurs et les experts sont pas forcément, ne savent pas forcément ce qui. Enfin, s'il y a eu des reventes entre marchands, et ça a été le cas, en fait, si déjà les objets sont passés de main en main, on ne sait pas vraiment distinguer lequel provient du palais d'été et lequel ne provient pas du palais d'été. Donc il y a un problème pour ces ventes en bleu, les ventes en bleu clair, où la plupart des lots proviennent du palais d'été, on ne sait pas exactement lequel, disons, est passé, enfin, le provient exactement du palais d'été, vous voyez. Donc pour ces ventes-là, en fait, c'est très difficile de dire, mais en fait, tel objet doit être restitué ou pas. À plus forte raison, parce que les catalogues de vente également sont très laconiques, je vais vous montrer en fait comment ils étaient rédigés à cette époque-là. Donc pour restituer des objets du palais d'été, il faut que ce soit des objets assez exceptionnels. Sinon, telle céramique ou tel objet en lac, ça va être très difficile de pouvoir dire avec précision, avec certitude, mais en fait, il provient du palais d'été. Donc voilà à quoi ressemblaient les catalogues. Celui-ci était assez exceptionnel parce que c'est le seul exemplaire que j'ai trouvé avec une photographie. Donc très certainement, ce catalogue de vente, disons, présente une photographie qui a été prise dans la cour de l'hôtel Drouot, à mon avis. Vous voyez, on voit les pavés ici de la cour. On a mis une tenture derrière, on a présenté ces objets et le vendeur. C'était un certain, vraiment on le voit avec le procès-verbal, un certain Bertal, qui était caricaturiste. Donc c'est un caricaturiste, photographe et caricaturiste. A priori, il n'a pas été en première ligne de ce pillage du palais d'été. Ça veut dire que les objets qu'il a eus et qu'il a mis en vente, vous voyez, qui proviennent du palais d'été de Yuanmingwen, ce sont des objets qui ont déjà subi une transaction. Il y a déjà eu un passage de la main d'un soldat à celle de Bertal. D'accord? Donc vous voyez qu'il y avait déjà, au moment de la vente, c'est la première vente hein, de décembre 1861, il y a déjà eu des transactions. Et finalement, il y a assez peu de vendeurs à Drouot qui étaient en fait des soldats. Le premier, en fait, c'était le colonel Dupin. Mais après, la plupart, c'était des marchands en fait, qui vendaient ces objets du palais d'été à l'hôtel Drouot. Donc qu'est-ce qu'on vendait? Quels sont les objets en fait qui ont envahi justement ces ventes aux enchères publiques à l'hôtel Drouot? Principalement, vous le voyez, des porcelaines. Et donc j'ai distingué en orange le nombre de lots qui provenaient explicitement du palais d'été, c'est-à-dire soit en fait dans des ventes où tous les objets provenaient du palais d'été, soit avec une mention précise provient du palais d'été. Et vous voyez en orange un peu plus clair, figurer en fait les objets où on n'était vraiment pas très sûr. Le nombre de porcelaines est impressionnant. Vous voyez, il y en a presque 400 porcelaines, 400 lots de porcelaines qui sont afflués à l'hôtel des ventes, sachant que souvent dans les lots, un lot pouvait contenir plusieurs objets, par exemple deux porcelaines ou trois porcelaines ou un lot de porcelaines. Donc on ne peut pas quantifier exactement. A priori, il y en a plus que 400. Ensuite, des objets en lac. Et ce qui m'intéresse là, c'est la catégorie divers. Donc il y avait beaucoup d'objets qui étaient classés dans cette catégorie fourre-tout. Ensuite, des matières dures, par exemple du jade, des objets en bronze, des étoffes. Et puis, ce qui est assez intéressant, là, c'est qu'il y a très très peu de peintures, très très peu d'art, mais surtout très très peu d'albums. Donc les œuvres sur papier, en fait, sont très peu nombreuses. Ce qui affluait en masse à l'hôtel Drouot, c'était surtout des porcelaines. Maintenant, qui a acheté dans ces ventes-là? Donc, c'est un graphique que j'ai eu la chance de mettre dans mon ouvrage, justement, grâce à cette subvention. Et c'est assez intéressant parce que les principaux acheteurs, vous voyez, ils sont en jaune, ils sont marchands. Donc, on a Nicolas Malinet et Charles Mannheim, qui étaient des marchands de curiosités, des marchands de meubles et curiosités assez connus. Et en fait, ils n'avaient pas de spécialisation. En fait, ils achetaient vraiment toutes les catégories d'objets. Ils n'étaient pas spécialisés dans les objets de la Chine, contrairement au cinquième, qui était Laurent Chignon, qui lui était spécialisé. Et vous reconnaissez aussi le nom de Bordelais. C'est un des ancêtres de Michel Bordelais, qui est un expert célèbre aujourd'hui. Donc, ce qui est assez intrigant ici, c'est qu'il y a beaucoup de marchands qui achetaient à ces ventes du pillage du palais d'été. Finalement, assez peu de particuliers ou de particuliers connus. Les particuliers connus, vous devez sûrement connaître le marquis d'Hertford. Le marquis d'Hertford, c'est le fondateur, en fait, sa collection fait le cœur de la Wallace Collection. Et on a pu retrouver, en fait, à la Wallace Collection, deux objets, ce sont deux vases brûle-parfum en émail cloisonné, qui ont été achetés de manière sûre à ces ventes-là du Palais d'été. Donc vous voyez, ce qui intéressait le marquis d'Hertford, bon, il avait un budget assez limité. Il habitait juste à côté de l'hôtel Drouot à Paris, donc il lui permettait de hanter les salles de l'hôtel Drouot au même titre que les marchands, donc c'était vraiment un habitué. Et ce qu'il a acheté ici, ce sont deux vases vraiment très précieux en émail cloisonné. Et en fait, la technique, le matériau de l'émail cloisonné, on va y revenir, c'était disons un matériau très significatif, c'était un signe extérieur de richesse, on va y revenir. Et il a également acheté ce poignard en bronze, en émaux et pierres précieuses. Et ça, ce sera un lien vers notre deuxième séance sur l'orientalisme, ce goût des armes, mais je n'en dis pas plus. Pourquoi l'émail cloisonné était-il aussi significatif et aussi important? Figurez-vous que dans ce pillage du palais d'été, il y a eu en fait deux poids, deux mesures. Disons, les plus belles pièces, elles ont constitué le butin royal, le pillage royal. Et les pièces de moins bonne qualité, en fait, elles ont été partagées entre les différents soldats. Et ce sont ces pièces-là qui ont alimenté les ventes aux enchères publiques. Le butin royal, pour la partie française, a atterri, si je puis dire, dans le musée chinois de l'impératrice Eugénie. Donc là, vous avez une gravure de 1863. Ce musée chinois, on peut toujours le visiter, il est à Fontainebleau. Il y a eu quelques pièces qui ont été volées il y a quelques années, mais il est resté entre guillemets dans son jus. Une très mauvaise photo que j'avais prise autant jadis. Et le clou de ce musée chinois, ce sont ces brûle-parfums ou même des vases en émail cloisonné de la Chine. Donc l'émail cloisonné, c'est une technique qu'on connaît depuis au moins le Moyen Âge. On a des objets en émail cloisonné. La spécificité des émaux cloisonnés en Chine, c'est leur caractère vraiment lisse comme une seconde peau, lisse et très très fin, très précis. Par exemple, là, j'ai zoomé sur le manche d'un poignard qui est conservé ici au musée du Quai Branly, qui est en émail cloisonné, et vous voyez que les émaux, enfin, les couleurs en émail, les émaux sont coulés dans un sertissage, si vous voulez, en métal, qui est vraiment très fin. Et donc la spécificité, voilà, de ces objets, c'est leur finesse, leur éclat, notamment un bleu assez reconnaissable, bleu et or. Et justement, au-delà de leur caractère précieux, C'est le fait que l'impératrice Eugénie en avait dans son musée chinois qui a donné la valeur de ces objets. On retrouve un peu ces deux modes d'historicité, à la fois la monture précieuse, de caractère précieux qui donne la valeur, mais en plus, si c'est Eugénie qui avait ce type d'objet, c'était un signe un peu un signe d'une consommation ostentatoire. Donc voilà à peu près, au moment en fait, des années 1160, on est passé d'un mode, un régime d'historicité à un autre, justement alimenté par un afflux quantitatif d'objets. Donc le tout venant, je vais repasser la salle, le tout venant avait des porcelaines, achetait des porcelaines à l'hôtel Drouot, donc petite classe moyenne ou même des marchands qui achetaient des porcelaines en quantité. Également un peu des objets en lin, mais surtout des porcelaines. Mais par contre, quand vous étiez un marquis d'Hertford ou Edmond de Tenny qui était au Conseil d'État, ben à ce moment-là, vous achetiez des émaux cloisonnés. Donc en fait, il y avait une sorte d'homologie, en fait, de parallélisme entre votre rang, votre position dans l'espace social et ce que vous achetiez. Donc les gens qui étaient en haut de l'espace social, ils achetaient des émaux cloisonnés, sinon on se contentait des porcelaines, soit plus ou moins issues du palais d'été, avec plus ou moins de certitude. Ce qui fait que à partir des années 1860-70, on a connu, enfin, je regarde moi sur ce qui se passe à Paris, hein, une vogue de la Chine et du Japon. Et quand je dis de la Chine et du Japon, la place des guillemets a son importance. Parce que le bibelot asiatique était indistinct. Je vais développer cet aspect en vous montrant justement à quoi ressemblaient les catalogues de vente. Les catalogues de vente dans les années 1860-70 ressemblaient principalement à des listes, donc des listes avec une description très succincte des lots. Donc, par exemple, le lot 44, deux vases forme potiche, décor émaillé représentant des jeux d'enfants. Et à côté, le catalogue est annoté 200 francs. Et donc c'est ce que je me suis amusée à retranscrire ligne par ligne. Un autre exemple, ici, si on reprend le deuxième lot, vous avez deux rouleaux dessins et manuscrits sur une feuille de Mikado, empereur spirituel du Japon et de ses femmes. Et ce qui est, disons, assez frappant, c'est que ces listes très succinctes pouvaient présenter, et ça je vous l'ai dit en introduction, plusieurs lots en un. Donc par exemple, lot 43 à 65, quantité d'anciennes porcelaines de Saxe, de Berlin, de Chine, du Japon et autres, parmi lesquelles on remarquera un beau cabaret en ancienne porcelaine de Saxe à médaillon paysage. Ce qui est frappant, en fait, c'est que dans ce lot, on est dans un lot indistinct qui n'est même pas en fait divisé au moment de l'adjudication. Donc c'est des céramiques, des porcelaines en masse. Et c'est surtout les porcelaines de Saxe qui sont ici mises en avant, contrairement aux porcelaines de Chine et du Japon. Donc presque, il y a une banalisation de l'afflux de porcelaines de Chine et du Japon. Ce qu'on va remarquer ici, c'est pas du tout des porcelaines asiatiques, mais c'est des porcelaines de Saxe. Donc il y a une banalisation de ces objets, une vogue, et surtout un afflux tellement important que la qualité de ces objets va se dégrader très vite du point de vue qualitatif. Donc si, là, j'ai distingué les différentes catégories d'objets mis en vente et vous voyez que dans mes sondages, donc en 1862, le nombre d'objets provenant de la Chine et du Japon explose et en 1973 encore plus. Et ce qu'on vend le plus, ce sont des porcelaines et des émaux cloisonnés. Mais en parallèle de cette augmentation quantitative, il y a un phénomène que je voudrais porter à votre jugement. C'est le phénomène de la provenance indistincte. Ici, donc j'ai un pourcentage des lots vendus, d'accord? J'ai regardé en fait la provenance de ces objets. Donc ici, par exemple, en 1852, je vois que plus de 50% des objets qui sont vendus proviennent explicitement de la Chine. D'accord? En orange, c'est le pourcentage d'objets qui proviennent explicitement du Japon. Donc en 1852, il y a à peu près 20%. Ensuite, en bleu, c'est les objets proviennent explicitement d'Inde. Donc là, il y en avait vraiment en pourcentage pas mal, mais ce sont des petites quantités en même temps. Ce qui est frappant ici, c'est l'augmentation en pourcentage, hein, des objets de provenance non précisée. Et ça, c'est assez frappant parce qu'on ne sait pas, à la lecture du catalogue, à la lecture de ces catalogues, des lots qui sont succincts, on ne sait pas en fait si c'est du lard ou du cochon. Enfin, on ne sait pas si c'est des objets d'Inde, de Chine, du Japon, on ne sait pas. On sait que ce sont des objets asiatiques, mais rien ne permet de préciser exactement la provenance de ces objets. On ne sait pas, même pas le pays, on ne sait rien du tout. Et donc, cette montée de l'indistinction, elle concerne, vous voyez, les années 1860. Et 70, enfin, dans mon sondage, on a aussi une montée de l'indistinction qui arrive très rapidement après cet afflux d'objets. Donc très vite, en fait, les objets en provenance de Chine, du Japon arrivent en masse à cause de cette ouverture forcée. Mais de plus en plus, on ne sait pas, les experts ne disent pas, en fait, ne prennent pas la peine d'expliciter la provenance. Ce qui fait que on a de plus en plus de ventes d'objets, entre guillemets, de la Chine et du Japon. Tout attaché, mais on ne sait pas en fait la provenance exacte. Et donc là, il faut imaginer les abords de l'hôtel Drouot tapissés de ce type d'affiches, des affiches colorées, c'était des affiches orange, bleu, jaune, avec comme titre de la vente Chine-Japon. Donc il y a de plus en plus de ventes qui ont tapissé les murs de l'hôtel Drouot et de plus en plus également de caricaturistes qui se sont moqués de cette dégradation qualitative. Vous voyez, Chine et Japon, plus c'est laid, plus c'est beau. Et vous reconnaissez ici l'allure d'un commissaire-priseur avec son marteau dans la main droite. Et on retrouve le commissaire-priseur, l'indispensable monsieur Charles Pillet. En l'occurrence, c'était le commissaire-priseur parisien le plus important et le plus. L'équivalent aujourd'hui, si vous voulez, de Christie's ou Sotheby's, enfin, c'était le commissaire-priseur incontournable. L'élégant interprète des enchères mondaines, quand il vous dit c'est un Raphaël, buvez de l'eau et dormez tranquille. Et il tient justement, enfin, il se trouve à côté justement de cette dégradation des objets en provenance d'Asie. Et il y en a également des caisses, des caricatures, disons, qui critiquent cette dégradation ici. Vous voyez un amateur de céramique qui ne partage point l'avis du dicton, tous les plats sont égaux, ce n'est pas la faïence, mais bien ce qu'on y sert qui fait la différence. Donc une indistinction en fait des plats, tous les pots se valent, hein, si vous voulez. Et un autre dessin qui va critiquer en l'occurrence le musée chinois qui fait une référence explicite au musée de génie à Fontainebleau, bien délaissé, on fabrique si bien l'article chinoiserie chez les faïenciers du faubourg Saint-Denis. Ici, la référence, disons, la pique va viser la montée en fait, d'une catégorie socio-professionnelle, enfin, une catégorie de profession. C'est la profession marchande de chinoiserie et de japonerie à Paris. En fait, là, je sors vraiment du cadre strict des ventes aux enchères publiques pour vous explorer avec vous l'équivalent des pages jaunes à l'époque. Hein, au XIXe siècle, les pages jaunes, l'équivalent, c'était ce qu'on appelait le bottin du commerce. Et dans le bottin du commerce, il y avait des catégories par boulanger, hôtelier, etc. Et il y a une nouvelle catégorie qui est apparue en 1868, c'est la catégorie marchand de chinoiserie. Et donc, 1868, apparition dans les pages jaunes d'une nouvelle profession. Madame, oui, vous voulez un. Ah non, c'est une nouvelle profession et vous voyez à partir de 1877 apparaît une deuxième catégorie, c'est les marchands de japonerie et vous voyez que leur. Sans caractère péjoratif, les chinoiseries, en fait, c'était tout ce qui était. Tout ce qui avait un rapport de près ou de loin avec la Chine, et on incluait également des objets fabriqués en Europe qui avaient, disons, des allures chinoises, d'accord? Donc, le nombre de marchands de chinoiserie explose, passe de 5 marchands de chinoiserie en 1869 à plus de 35 en 1878, soit une multiplication par 7. Bon, on parle de pas beaucoup, mais vous voyez une augmentation de ce nombre. Et c'est pour ça que le caricaturiste va parler de musée chinois qu'on fabrique en fait dans l'article chinoiserie au faubourg Saint-Denis. Donc il y a une montée de l'indistinction. Après tout, les ventes d'objets de la Chine et du Japon peuvent très bien présenter un article fabriqué rue Saint-Denis ou dans le faubourg Saint-Denis et qui a l'air d'être chinois. Donc cette montée de l'indistinction qu'on trouve dans cette sorte d'environnement parisien. Donc là, c'est une carte pour vous montrer que, en fait, les marchands, ceux qui achetaient des objets de la Chine et du Japon à l'hôtel Drouot, étaient aussi bien des marchands de curiosités en jaune que des marchands de curiosités chinoiseries et japoneries. Et les marchands spécialisés dans les chinoiseries et japoneries, vous voyez qu'ils sont plus en rouge. Ils avaient une position périphérique, le cœur en fait des acheteurs, le cœur de ce corps de métier des professionnels de la chinoiserie et de la japonerie était principalement des marchands qui étaient aux alentours de l'hôtel Drouot et qui vendaient également des curiosités. Donc on est dans une catégorie comme une autre, dans des objets qui sont assez banalisés. Cette banalisation va prendre très vite un caractère assez misogyne. Pour l'illustrer, je vous montre ce tableau de James Tissot qui présente deux femmes élégantes dans le pôle supérieur de l'espace social, comme dirait Bourdieu, et qui sont en train d'examiner un paravent en laque, et qui sont derrière elles, vous avez reconnu peut-être un vase, un émail cloisonné, intérieur chic oblige. Et très rapidement, le caractère indistinct de ces objets va être, disons, dégradé, va prendre un caractère péjoratif. Pourquoi? Parce que c'est principalement, enfin, ce sont des femmes qui, plus que dans d'autres segments, vont acheter ces objets. Je m'explique. À l'époque, l'hôtel Drouot était assez misogyne. Même aujourd'hui, si vous allez en vente publique, il y a plus d'hommes que de femmes, généralement. Au XIXe siècle, les femmes étaient, disons, comment dirais-je? Il y avait un caractère misogyne très très fort. Et une femme qui fréquentait l'hôtel Drouot pouvait être caricaturée comme une femme aux enchères qui mettait son corps aux enchères, donc qui cherchait un riche protecteur. Et donc qui s'adjugeait au plus offrant en cherchant ses futures proies, entre guillemets. Donc, il y avait un amalgame très fort entre le fait de fréquenter l'hôtel des ventes et le fait d'être une prostituée qui cherchait un futur client pour l'hôtel de passe. Voilà. Donc, il y avait un amalgame qui était très, très fort dans toutes les caricatures et une misogynie ambiante assez, assez terrible. Et donc, le fait qu'il y ait un peu plus de femmes, donc même pas 5% hein, parmi les acheteurs, même pas 5%, plus que dans d'autres segments, par exemple dans le segment des tableaux, des dessins, des sculptures, il y a très peu de femmes qui achètent. C'est surtout des hommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes collectionneuses, mais elles passent par un marchand qui achète pour elles, hein, moyennant une commission. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collectionneuses, d'accord, mais elles n'achètent pas directement aux enchères. Au contraire, pour le segment en fait des objets asiatiques, il y a un peu plus de femmes, elles sont un peu plus visibles. Et très rapidement, c'est le caractère un peu plus féminin de ces objets asiatiques va entraîner une dévalorisation, comme si le fait d'être acheté par une femme, ça voulait dire que l'objet était de moindre valeur, que c'était un objet facile et qui était un objet justement dévalorisé aussi bien symboliquement qu'économiquement. Et c'est pour ça que le terme de bibelot va apparaître. On va dire qu'en fait, après tout, si les femmes achètent ces objets, c'est que ce sont des objets un peu de pacotille, des bibelots, des petits objets sans importance. Et malgré tout, malgré ce caractère un peu de bibelot, le nombre de collectionneurs d'objets de la Chine et du Japon augmente, et principalement en fait des artistes. Il y a une fascination notamment pour le Japon. C'est ce qu'on appelle la vogue du japonisme, qui est très bien connue. Et je n'ai pas le temps de revenir sur cet aspect. Mais par exemple, Claude Monet, lui, collectionnait les éventails, les estampes, et aussi les éventails, vous voyez, japonais. Ici, il représente sa femme Camille en costume. Il l'appelle la japonaise, Madame Monet en costume japonais. Ici, c'est un kimono magnifiquement brodé, vous voyez, avec sa référence à la Ultime Combat. Vous avez un samouraï qui va dégainer un sabre. Et donc, Monet va montrer tout à la fois son amour pour le Japon et ce caractère un petit peu bibelot, un peu galvaudé. Pourquoi? Parce qu'il met une perruque blonde à Camille. Camille était brune. Et là, en fait, il va la travestir en nono européenne qui se travestit. Vous voyez? Cette mise en abîme un peu de la vogue de la japonerie bibelot. Également, les expositions universelles où le Japon est présenté pour la première fois, enfin, le Japon intervient en tant qu'invité, que nation invitée en 1867. Il faut imaginer en fait ces expositions universelles comme un peu le grand magasin du monde où toutes les nations vont présenter ce qu'elles ont de mieux en termes d'art décoratif et art industriel. Et le Japon, à l'exposition qui a lieu à Paris en 1878, va vraiment marquer les esprits, va faire une forte impression. À tel point qu'il était assez commun, assez courant, de collectionner les objets un peu de la Chine et du Japon, d'en avoir chez soi. Et Manuel Charpie, dans sa thèse, hein, a montré qu'il y a une sorte de meuble qui se développe dans les intérieurs bourgeois, c'est les étagères à bibelots. Ce sont des meubles vraiment dédiés à des petits objets de collection. Vous en avez un, celui qui est à droite, vous voyez qu'il y a ce meuble présente de manière très très bien rangée, alignée sur cette étagère, de tout petits objets. Et la pratique de la collection se démocratise, encore une fois, dans l'espace supérieur, hein, de l'espace social. Ce ne sont pas les ouvriers qui ont des étagères à bibelots, bien évidemment, mais il y a une démocratisation de la collection. Mais malgré tout, ces objets, ces petits objets, sont assez mal considérés. Parce que déjà, un, il y en a beaucoup, et deux, parce qu'également, ils sont indistincts, on ne sait pas vraiment la provenance. Et enfin, parce qu'il y a des femmes qui les collectionnent. Ce qui m'amène à ma troisième partie, cette grande fresque d'abolir le bibelot asiatique. Donc, on est au moment où il y a des bibelots asiatiques, maintenant, il faut les abolir. Il faut valoriser un peu plus ce segment. Certaines personnes, certains amateurs, certains érudits vont transformer le visage de ce segment asiatique. Et ce qu'on appelle le connoisseurship, par en fait un afflux de savoir, par une documentation accrue, c'est des personnes, on va voir lesquelles, vont réussir à donner un autre visage au segment asiatique. Il y a trois types d'objets en fait, vont subir, vont bénéficier plutôt de ce connoisseurship accru que je vais définir dans un peu plus tard. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, si vous avez vu l'exposition Ultime Combat, vous savez ce que c'est. C'est un tsuba, une garde de sabre. C'est un objet japonais, un tout petit objet qui sert ici. Non, c'est là. Ici. Qui servent justement à garder en fait, au niveau de la poignée, en fait, qui sert à une garde de sabre. Donc, les types de tsuba vont être concernés par ce connoisseurship. Ensuite, un deuxième type d'objet, les inro ou les boîtes à médecine, l'équivalent de nos poches. Et enfin, les netsuke, un peu plus compliqués. Si vous savez, tout le monde, enfin, en tout cas, les netsuke, ce sont des petits objets. Disons qui retenait l'INRO. Vous avez vu tout à l'heure ces boîtes à médecine. Donc, ce sont des petits objets tout en haut là, qui servaient en fait, qui un peu pendaient à l'INRO. Et pourquoi? Parce que donc les Japonais n'ont pas de poche. Là, j'ai une robe avec des poches. Vous voyez, mais ils n'ont pas. Ça, c'est pas possible au Japon. Donc, eux, ils ont un hobby, une ceinture. Et vous voyez que leur poche à eux, avec des compartiments, elle est retenue à l'hobby par le netsuke, d'accord? Et donc ces objets, donc tsuba, netsuke et inro, vont constituer en fait des cibles privilégiées de ce connoisseurship. Là, j'ai pas pu résister à mettre une sélection de netsuke au musée du Quai Branly. Donc moi j'aime bien celui avec le petit chat avec en bas à gauche, mais bon c'est très très personnel, mais voilà. Vous pouvez découvrir les netsuke du Quai Branly. Et aussi, si ça vous intéresse, lire le Lièvre aux yeux d'ambre d'Edmund Deval, qui est un descendant de la famille Efroussi, qui était des banquiers juifs. Et c'est la famille Efroussi, et notamment. Enfin, le prénom m'échappe, je ne veux pas dire des bêtises, a été le modèle de Swann, dans Proust, en fait. Donc le Swann de Proust. Donc je vous recommande vraiment ce livre extraordinaire d'Edmund Deval, donc Le Lièvre aux yeux d'ambre, je pense qu'il doit être la librairie également du musée. Et donc, pour en venir à mon point, précis, le nombre en fait d'objets qui s'appellent Inro ou Tsuba ou Netsuke va exploser à partir des années 80-90. Ces objets, en fait, ils existaient déjà. Ils étaient déjà vendus aux enchères à Paris. Ils existaient, ils étaient mis et notamment collectionnés par un certain Philippe Burti. C'est celui qui a donné le nom de japonisme. C'est lui qui a forgé le terme japonisme, Philippe Burti. Donc ces objets existaient. À partir des années 1880, ils existent en tant que tels. Ils sont nommés. Avant, c'était petites figurines ou gardes de sabre. À partir des années 1880-90, on donne le nom japonais. Et donc là, on commence déjà à le connoisseurship, c'est-à-dire l'enrobage savant, l'attribution, la quête du mot exact, disons, prend de l'ampleur à ce moment-là. Pourquoi elle prend de l'ampleur? Parce qu'il y a des érudits, des passionnés de la Chine et du Japon qui se mettent à écrire sur les objets en provenance d'Asie. Un des premiers est, après Stanislas Julien, qui est un très grand sinologue, c'est Octave Dussartel. Donc lui, il est très malin. J'aime bien. Donc en 1881, il écrit un ouvrage illustré qui s'appelle La porcelaine de la Chine. Donc vous voyez, chapitre premier, origine de la porcelaine de Chine. Et on a un peu des clichés, la représentation ici de ces marchands chinois. Bon. Ça vaut ce que ça vaut, mais un an plus tard, il est assez malin parce qu'il va vendre ses porcelaines de la Chine et du Japon aux enchères. Et vous voyez qu'il fait référence, il est très fort en marketing, puis il va faire référence à son propre ouvrage pour justement augmenter la valeur également enfin, culturelle, la valeur de ses objets. Par exemple, et donc là, c'est pour ça qu'il est très malin. Donc le 91, c'est un vase fuselé. Vous voyez, et porcelaine de Chine. Et ici, il fait référence à la planche 7 voyez, de son, du catalogue. Plutôt, il fait référence à la planche 7 de son ouvrage Des porcelaines de la Chine, paru un an plus tôt. Et donc, c'est comme ça, en fait, que par ce connoisseurship, par le fait, oui, je l'ai écrit, et en plus, vous voyez, c'est un objet très important parce qu'il est dans mon ouvrage Porcelaine de la Chine. L'objet finit par être acheté par le musée de Sèvres, 1900 francs. Il faut avoir multiplié par 4 pour avoir le prix en euros actuel. Donc il est assez malin parce qu'il augmente, fait une inflation, disons, savante de ces objets. Un autre érudit qui est plus connu que Octave Dussartel, c'est Ernest Grandidier, qui fait paraître la céramique chinoise en 1894. Grandidier est connu pour avoir légué son immense collection de porcelaine, notamment chinoise, au musée du Louvre. Et cette collection au musée du Louvre occupait une sorte d'entresol juste au-dessus de l'école du Louvre, donc l'aile qui fait, enfin, qui donne sur la Seine, vous voyez, du musée du Louvre. Et donc cette l'aile Grandidier donc, provient de ce collectionneur important. Et le Japon également fait partie de cette deuxième vague de, enfin, disons, pour le connoisseurship, on est une deuxième vague et cette deuxième vague concerne le Japon. L'ouvrage majeur, c'est celui de Louis Gonse qui s'appelle L'art japonais, qui est paru en 1883. Et vous reconnaissez ici sur ces planches un accent particulier qui est mis sur les tsuba, ici, et sur les petits, les netsuke. D'accord? Ce sont des catégories d'objets qui sont privilégiées. Et dans la vitrine, si vous, en partant, vous regarderez, il y a un catalogue ici de Siegfried Bing. Et Siegfried Bing, ici, c'était un marchand d'objets justement de la Chine et du Japon, un marchand provenait de Hambourg. Et Siegfried Bing a été un des promoteurs les plus importants du connoisseurship sur le Japon. Il a notamment lancé une revue qui s'appelle Le Japon artistique en 1888. Et vous voyez, l'imprimeur, c'est Charles Gillot. Et Charles Gillot était également un grand collectionneur d'estampes japonaises. Et vous avez ici sa collection, qui est donc le catalogue de vente de Charles Gillot. Je vais y revenir, j'ai quelques slides dessus, qui est présenté dans cette magnifique vitrine. Et justement, donc, vous voyez une sorte de clic entre Bing et Gillot pour promouvoir les estampes japonaises et faire présenter ce qu'ils appellent des documents d'art et d'industrie, disons, au public parisien et français. Siegfried Bing a également un fait d'armes. Enfin, il organise un grand événement pour promouvoir le Japon. Cet événement, c'est l'exposition de la gravure japonaise qui a eu lieu ben, justement à l'école des Beaux-Arts. Donc, on est juste au cœur en fait du monde de l'art à Paris. Siegfried Bing, avec d'autres, et notamment, enfin, je ne sais pas si vous arrivez à lire, moi j'ai perdu de la vision, mais il y a Philippe Burti, il y a également Charles Gillot, Edmond de Goncourt, Louis Gons, le musée des arts décoratifs, également Vevers qui était un joaillier, le musée Guimet, etc. Donc il y a eu toute une série de collectionneurs, disons, qui étaient des amateurs de gravure japonaise, et Siegfried Bing, qui décide d'organiser une exposition qui aura un impact majeur à Paris en 1890. Voici le catalogue d'exposition, donc qui est très Japon artistique. Vous voyez, on est dans ce même esprit. Cette exposition présente des gravures inédites, des gravures que le public parisien n'avait pas l'habitude de voir. Donc, imaginez, à l'époque, les gravures étaient principalement en noir et blanc. Donc, que voient les visiteurs? Une débauche de couleurs. Il voit ces gravures, ces estampes de l'école de Tori Kiyonaga, Harunobu, pardon pour mon japonais, vous voyez, Utamaro. Il voit cette profusion d'estampes, Hokusai, bien sûr, vous avez reconnu la vague hein, d'Hokusai. J'ai pas mis en blanc. Pardon. Et une visiteuse de cette exposition est Marie Cassette. Pissarro visite l'exposition, à ses amis, il faut absolument que vous alliez voir, c'est magnifique, j'ai jamais vu autant de couleurs, allez-y. Marie Cassatt visite également cette exposition et cette exposition trouve un impact direct dans sa pratique artistique. Et là, je me suis permise en fait, de mettre une gravure que je développe dans mes fragments avec les étudiants de PSL un peu plus en profondeur. Marie Cassatt visite l'exposition et très vite, voilà, elle va d'essayer de retranscrire à l'européenne avec des scènes notamment Utamaro, notamment la femme à la toilette qu'elle voit à l'exposition de la gravure japonaise, elle va la retranscrire dans la coiffure. Vous voyez ici l'effet de miroir, on passe d'un miroir japonais à un miroir en fait d'armoire assez bourgeoise, la même pose. Et également, pour son bain d'enfant, elle va reproduire un peu, elle va passer du baquet à la japonaise, un baquet à l'occidental, avec aussi les traits ne seront pas les mêmes. Donc cette exposition japonaise, de gravure japonaise, a un impact majeur, qui est également revendiquée en fait, comme telle. Hein. Marie Cassatt expose ses gravures chez Durand-Ruel et vous voyez pour le bain d'enfant, donc c'est la gravure précédente, on voit bien essai d'imitation de l'estampe japonaise. Des auteurs, notamment Edmond de Goncourt et d'autres, en fait, vont publier au même moment sur ce nouvel art qu'ils vont justement apprécier, ils vont vouloir le faire partager au lecteur, un lectorat plus grand, notamment Edmond de Goncourt, Utamaro, le peintre des maisons vertes. C'est juste pareil, un an après l'exposition de gravure japonaise, Utamaro qui a également inspiré Marie Cassatt. Dans la vente des Goncourt, les Goncourt ont été des grands connaisseurs, en fait, des connaisseurs, et vous voyez que dans leur catalogue de vente en 1897, ce connaisseurship se traduit immédiatement par une sorte d'index des signatures. Vous voyez, on est passé, vous souvenez-vous, dans les années 1860, des listes avec à peine une ligne ou deux, à des catalogues beaucoup plus gros où il y a vraiment une volonté d'attribution très grande. Et c'est justement le visage de ce segment asiatique change. Vous voyez ici la part des arts graphiques après l'exposition de 1890, elle explose en fait. Ça veut dire que il y a de moins en moins, en proportion, il y a moins de porcelaine, mais de plus en plus une ouverture beaucoup plus grande, notamment aux arts graphiques. Et les musées vont acquérir certaines estampes. Il y a un segment dédié aux estampes japonaises qui apparaît à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'estampes, mais elles passaient sous le radar dans la catégorie divers. Et à ce moment-là, les estampes apparaissent à part entière. Et là, vous voyez que le musée Guimet achète une gravure d'Hokusai. Je ne sais pas si j'ai un peu le temps, je peux aller jusqu'à l'écart. Ok. On peut se demander si les collectionneurs d'estampes constituent un monde clos ou pas. Est-ce qu'ils étaient un petit peu, on est entre nous, et est-ce que les amateurs d'estampes étaient achetés également des porcelaines ou est-ce que quelle était un peu leur sociologie? Très rapidement, il y a quand même une sorte de clique des amateurs d'estampes, notamment Raymond Coquelin, qui adorait, c'était un industriel, lui, alsacien, qui était voilà, un des précurseurs de ce milieu en fait, des amateurs d'estampes. Vous avez reconnu aussi Henri Rouart, qui était un très grand défenseur des impressionnistes, un amateur des impressionnistes, le musée Guimet, également des, enfin, des, comment dire, des amateurs qui sont un peu moins connus. Un qui m'intéresse particulièrement, c'est Dollfuss, c'est en fait DMC, c'est Dollfuss en fait. Donc, c'était également un industriel qui avait un goût très très précis. Et vous voyez, Dollfuss, il est assez à part parce qu'il collectionne à la fois les lacs, les ivoires, les peintures. Et il est très éclectique par rapport à ses autres camarades. Et également un certain Truchy qui aime les estampes et les porcelaines. Mais après tout, c'est. Voilà. Donc, il y a aussi ce que permet cette recherche, c'est de découvrir des noms des amateurs qui, à l'époque, étaient importants, mais qui étaient un peu plus discrets et qui sont passés un peu sous le radar de l'histoire de l'art. Là, Charles Gillot était également imprimeur, grand collectionneur d'estampes. Vous avez, si on ouvre le catalogue là, que vous avez en bas à gauche, vous voyez que ces connaisseurs, ces amateurs connaisseurs adoraient, disons, porter un soin, enfin, ils portaient un soin très important au catalogue de vente, et c'est ce qui fait la valorisation des œuvres. Quand vous avez un catalogue imprimé un peu comme une liste, ça donne pas trop envie. Là, le fait de prendre de l'argent, parce que ça coûtait cher en fait, d'imprimer un beau catalogue, vous voyez, ça valorise presque de manière performative, ça valorise automatiquement ce segment. Donc si on ouvre le catalogue là, de Gillot, vous voyez qu'il y a un bandeau, quand même, ça contraste avec nos listes précédentes et également des reproductions en planche, en pleine planche. Et vous voyez une référence, disons, à ces livres qui sont détaillés. Parmi les amateurs, en fait, d'estampes, vous avez Charles-Louis Houdard qui a fait les cartons d'invitation de la société, en fait, des amis, les amis de l'art japonais. Donc, la clique en fait se regroupait. Il y avait un effet de sociabilité assez important. Et Houdard, lui, était collectionneur d'estampes. Il achetait à l'hôtel de Rouault ses estampes. Et pour faire cette invitation au dîner des amis de l'art japonais, il s'est, à mon avis, inspiré d'une estampe qu'il avait achetée de Hokusai. Vous voyez, on retrouve le pont ici. C'est la même forme que la tige et des grenouilles. Donc un effet d'émulation. Donc pour valoriser ce segment, pour sortir, abolir les bibelots, vous avez quoi? Vous avez nommé les objets, après faire des expositions pour le segment des estampes et publier sur ça, sur ces estampes. Et le troisième mode en fait de valorisation, de connoisseurship, c'est la datation. De plus en plus, vous voyez, les objets datés en verre augmente dans ce segment. Donc, et ça, c'est une modification assez majeure qu'on doit à Hayashi Tadamasa. Hayashi Tadamasa était le commissaire du Japon pour l'exposition universelle à Paris en 1900. Donc, c'est lui qui a valorisé ces objets, qui a apporté un plus grand connoisseurship. Et ça s'est traduit à l'hôtel de Rouault par une vente en plusieurs parties, une vente de sa collection. Il était également marchand, hein, marchand et collectionneur. Il a initié Louis Gons au connoisseurship. Louis Gons, vous vous souvenez, c'est celui qui avait les tsubas là, voilà, imprimés. Donc il a formé Louis Gons et il va présenter au public des objets de sa collection en 1902-1903. Et c'est cette valorisation par la datation. Il va présenter des nouveaux objets dits de la Chine archaïque. C'est comme ça qu'on disait de la Chine archaïque. Et ces objets vont attirer en 1902-1903 les musées. Pour la première fois en fait, en vente publique, les musées apparaissent, notamment les musées allemands, notamment Woldemar von Seydlitz, qui était directeur des Beaux-Arts de Saxe. Et il achète notamment, hein, entre autres, ces deux objets. J'attire votre attention en fait, sur le Bodhisattva. À gauche, et juste après cette adjudication, nous avons notre Gaston Migeon national pour le musée du Louvre qui fait pareil. Il va copier Seydlitz et il va acheter ce Bodhisattva méditant qui est maintenant au musée Guimet, me semble-t-il. Mais voilà, il y a une émulation, une rivalité, un effet d'entraînement entre musées, justement grâce à cette vente Hayashi qui donne des datations et qui en plus présente des objets nouveaux, des objets qui sont dignes de rentrer au musée. Pourquoi? Parce que ces objets, par exemple ces masques qui sont achetés par Gaston Mijan pour le musée du Louvre, ces musées ressemblent à de la sculpture classique, de la sculpture telle qu'on peut la présenter dans les musées. Les musées n'achètent pas des petits Netsuke ou des Tsuba, voyez, ou des, mais disons des objets qui font déjà beaux-arts, qui font art antique, si vous voulez. C'est une catégorie, on n'est plus dans du bibelot, mais dans des objets normalisés, prêts à rentrer dans les musées. On a également, à cette même période, une émulation par les fouilles qui se succèdent en Asie, notamment la fouille de Paul Pelliot et également les publications. On a également d'un autre fouilleur explorateur, Victor Segalen, qui a publié Stèle, c'est une sorte de recueil de poèmes magnifiques. Dans l'entre-deux-guerres, et ça je reviendrai dans les rendez-vous suivants, notamment les rendez-vous 3 et 4, on est dans un même mode de valorisation, rien n'a changé par rapport aux années 1910, à la différence près que, vous voyez, on est en vert, vous avez les objets dits asiatiques. Vous voyez que dans la crise des années 1930, les objets dits asiatiques servent de valeur refuge. En fait, de valeur sûre, de valeur refuge dans les années 1930, quand en fait la bulle pour les objets en provenance d'Afrique, les objets en provenance d'Océanie et les objets dits précolombiens, quand cette bulle s'effondre, les collectionneurs en fait vendent quoi? Ils vendent des objets en provenance d'Asie comme une forme de valeur refuge. Et comme Malraux, en fait, Malraux avait raison de se tourner entre guillemets vers l'Indochine, enfin raison. Toute proportion, enfin, disons qu'il a senti l'air du vent, enfin, il a senti le vent se tourner vers l'Indochine, parce que c'est les statues en provenance d'Indochine, Indochine française, connaissaient les plus forts prix d'adjudication. Donc on recherche en fait je passe, on recherche en fait des objets type beaux-arts, des statues, des sculptures. On recherche des sculptures anciennes, vous savez, comme dans les années 1910. Et c'est surtout, on recherche des statues en provenance d'Indochine. Et les records de vente, voilà, ce sont des statues de l'art Cham, Khmer ou de l'art dit siamois. Et c'est pour ça que Malraux aussi s'est tourné dans ce type d'artefacts. Parce que c'est ces artefacts connaissaient les plus forts prix d'adjudication. Voilà, donc vous voyez en l'espace de quelques années comment en fait les préférences se forgent, se font, se défont, et à quel point les préférences sont aussi variables en fait. Au départ, on aimait bien la Chine, puis après c'est le Japon, et puis après c'est la Chine archaïque, et puis après c'est l'Indochine. Vous voyez, les goûts changent, les préférences aussi, les objets n'ont pas la même signification en fonction de là où on se trouve dans l'espace social. Et si j'ai quelques minutes de conclusion, j'aimerais bien vous parler d'un segment d'une bulle qui était assez insoupçonnée, et même, enfin, et que j'ai découverte comme ça, mais par le plus grand des hasards, c'est la bulle des arbres nains du Japon. En fait, en 1902, ça a été le début d'une mode, une mode forgée, en fait, un pari qui a été fait par Siegfried Bing. Vous vous souvenez, c'était le marchand qui provenait de Hambourg et qui, justement, avait fait l'exposition de gravure japonaise en 1890. On est en 1902, le japonisme s'essouffle, on en a un peu marre. La vente Goncourt de 1897, c'est un peu les derniers feux du japonisme. Tout le monde en a un peu marre du Japon. On se tourne plutôt vers la Chine archaïque. Et Bing a l'idée de mêler, de lancer un nouveau segment, de faire un pari. C'est le sud d'allier le Japon avec l'art nouveau. L'art nouveau, c'est le végétal. C'est des lignes un peu coup de fouet, des lignes courbes, un rapport, disons, entre la fonction et leur forme et fonction, rapport organique, végétal. Et ce qu'il lui a proposé de mettre en vente à l'hôtel Drouot, vous voyez, des arbres nains, parce que les arbres nains, c'est la conjonction du végétal, de l'art nouveau et du Japon. C'est plutôt malin, en fait. Et en fait, oui, il va déployer toutes les astuces qu'on a vues pour valoriser des objets. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il fait un catalogue, un beau catalogue. Il met également des images, des illustrations. Là, vous voyez que ces arbres nains ils provenaient vraiment d'un commerce vraiment mondialisé, puisqu'ils étaient produits à Osaka. Dans le procès-verbal, en fait, je vois que d'Osaka, il transite vers Londres. Dans la firme, enfin la succursale londonienne de la multinationale Yamanaka. Et de Londres, ils étaient envoyés à Paris, à l'hôtel Drouot. Et ce que fait Bing, c'est qu'il montre des arbres nains en pleine page, comme si c'était des sculptures. Encore une fois, on est dans l'air du temps. Et il va bien décrire donc, une explication, donc le connoisseurship appliqué aux arbres nains. Et pour votre information, en fait, c'est faux de dire que ces arbres nains, ce sont des bonsaïs. Le bonsaï, en fait, est un type d'arrangement de l'arbre nain. Voilà. Donc, l'arrangement type bonsaï, miniature d'un arbre forestier en pot ou sur plateau par culture artificielle, à ne pas confondre avec l'arrangement jiki, qui est un arrangement à branches régulières, ou l'arrangement kangai, un arbre surplombant un tertre. Là, par exemple, vous avez un arrangement kangai ici, un arrangement jiki. Et là, un élevage sur rocher. Voilà. Donc, vous voyez, le bonsaï est un type d'arrangement. Donc, en tout cas, il apporte du connoisseurship à ces arbres nains. Il apporte également une datation. Vous voyez, là, celui-ci a environ 75 ans, celui-ci a environ 30 ans. Et celui-là, c'est Jeanne Calment du bonsaï, a environ 100 ans. Donc, il donne une datation, il les décrit très, très bien. Enfin, on n'est pas dans de la liste. Vous voyez, il a déployé tout l'arsenal des trucs et astuces. Et les ventes se poursuivent et finalement tout se normalise un petit peu. Vous voyez que ici, les catalogues d'arbres nains, ils ont la forme du kakémono. Ils ont donc un format très, très vertical. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Il y a une première bulle. En 1902, tout le monde se rue en termes de prix vers les bonsaïs. Et puis une deuxième vague hein, autour de 1909, un deuxième moment de valorisation. Et puis après, le marché disparaît en 1912, enfin du moins à l'hôtel Drouot. C'était un marché qui a attiré dès le début des aristocrates. Hein, donc par exemple Robert de Montesquieu, qui est un personnage également, vous savez, de Marcel Proust dans à la recherche du temps perdu. Marcel Proust achète 7 bonsaïs à la première vente de Bing. Donc Montesquieu aussi, c'est Montesquieu qui a fait aussi un effet de mode parce qu'il avait des bonsaïs chez lui. Et donc Bing aussi a profité de cette un peu de du enfin, il a un peu surfé sur la vague Robert de Montesquieu. En tout cas, le gratin, le tout Paris se presse à la première vente, à les deux premières ventes. Et puis après, à mon avis, si le marché disparaît, c'est parce que cette aristocratie n'arrive pas à cultiver ses bonsaïs. Et surtout, parce qu'ils doivent. Moi, je fais crever les lierres, par exemple. Donc, ouais, un bonsaï, il ne tient pas une semaine. Vous voyez, donc, et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un effet de substitution. Finalement, ce sont des horticulteurs qui ont acheté de plus en plus ces arbres nains en vente publique et qui ont réussi à cultiver eux-mêmes leur propre bonsaï, et notamment Fontenot, qui est après le principal adjudicataire de bonsaï, vous voyez, et qui se met à cultiver ses propres arbres nains donc 8-10 rue Ménil. Bon, je pense qu'il a fermé, à mon avis, je pense que ce sera. On ne peut plus trouver Fontenot, mais à l'époque, voilà, il a réussi à importer cette technologie. Et c'est pour ça que c'était beaucoup moins rentable de faire venir des bonsaïs depuis des arbres nains, pardon, depuis Osaka, de les faire transiter par Londres et les faire venir à l'hôtel Drouot, alors que c'était beaucoup moins cher de les cultiver sur place grâce à une importation technologique. Voilà, je m'arrête là et j'ouvre pour les questions. Vous voyez que les modes, justement, se font et se défont de manière très, très rapide. Et je vous remercie, j'étais peut-être un peu longue. Merci. Merci.
Juste pour vous en parler très très rapidement, vous retrouverez tout ce qui est contre le mur. C'est pas un mur, mais vous m'avez compris. Ce qui est contre le mur, effectivement, ça répond à ce que nous a expliqué Léa. Ce sont des catalogues assez anciens qui sont sous forme de listes. Effectivement, personne ne sait enquiquiner deux sagaies Afrique. Voilà, ce sont les seuls éléments porcelaine Chine-Japon. Voilà, effectivement, c'est comme ça. Et on a essayé de décliner en fait un petit peu l'évolution des catalogues d'exposition. Alors, ce n'est pas notre propre savoir, hein, c'est parce qu'on a lu son livre. Où vous voyez qu'au bout d'un moment, effectivement, les légendes sont un petit peu plus complètes, elles sont datées, la provenance géographique est un petit peu plus précise, et on a des catalogues avec des séries de photos et des très très belles illustrations. Sont exposés aussi les deux plus anciens catalogues du musée du Quai Branly Jacques Chirac, enfin de la bibliothèque, les deux plus anciens catalogues conservés ici. Et enfin, un petit clin d'œil, vous avez un marteau de commissaire-priseur qui est fait en fanion de baleine et qui nous est arrivé du musée des arts d'Afrique et d'Océanie. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite parenthèse. Je redonne le micro à Léa et vous pouvez directement lui poser des questions puisque un collègue va passer auprès de vous pour vous donner le micro, puisque effectivement la conférence est enregistrée, donc il faut bien parler dans le micro. J'ai déjà pris beaucoup trop de temps, excusez-moi, merci beaucoup.
Merci Rachel, c'est trop gentil.
Je commence peut-être pour animer le débat. Merci beaucoup Léa pour cette présentation passionnante. Je comprends maintenant la passion de Rachel d'avoir lu votre livre et on voit comment vous avez pu faire une articulation qui n'est pas toujours évidente à faire entre une recherche quantitative et une recherche qualitative. Donc, un grand bravo pour ça.
Merci bien.
Et j'aurais des questions peut-être très précises pour ne pas prendre trop de temps. Les femmes, quand vous dites qu'à peu près 5% des ventes, des objets sont achetés directement à Drouot par des femmes, je me demandais qui sont ces femmes qui font face à à toute la charge de préjugés qu'il y a contre la fréquentation des Drouot par des femmes. Aussi, si vous aviez des informations sur les frères Grandidier, sur la vente des objets d'Afrique et surtout d'Amérique du Sud. J'aurais d'autres questions précises, mais on peut commencer par là, peut-être.
Merci beaucoup pour votre question et votre gentillesse. Pour les femmes, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est Valtès de Labigne qui a acheté. Parce que je travaille par sondage en fait, et dans l'année 1873, je vois que Valtès de Labigne a beaucoup acheté aux enchères des objets, encore une fois, indistincts, quoi, un peu asiatiques. Et c'était une grande horizontale, une courtisane. Assez, disons, réputée à Paris, donc, qui a acheté. Il y a également des marchandes, notamment Madame Decelles, qui a acheté, qui est marchande de chinoiserie. Et puis après, beaucoup d'anonymes, en fait, quand je vois Madame de. J'essaie de les identifier justement par le bottin du commerce, par les adresses. Et en fait, ce sont des dames anonymes. Mais Valtès de Labigne, elle est assez haute en couleur à Paris. Et après, pour la Grandidier, je crois j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais vraiment, c'est assez paradoxal. Mais du coup, je retravaillerai, je relirai le passage justement pour le dernier rendez-vous, l'avant-dernier et le dernier rendez-vous. Rendez-vous 3-4, là, je pourrai vous répondre. Mais je retravaillerai ce point. J'ai peur de dire une bêtise, en plus, c'est enregistré. Voilà, merci.
Oui, effectivement, c'était passionnant. Merci beaucoup.
Merci.
J'ai une question un petit peu naïve peut-être, mais il me semblait qu'il y avait déjà eu un engouement pour l'art oriental au XVIIIe siècle.
Oui.
Les chinoiseries, c'était quand même. Alors,
oui.
qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et la Révolution, c'est ça?
Merci de me faire développer ce point. Je trouve que j'ai pas voulu trop développer, je voulais aller droit au but. C'est sûr qu'il y a eu une grande vogue des chinoiseries. Au XVIIIe siècle, donc par exemple, vous allez à la Grande Singerie à Chantilly, enfin, et où même il y avait des collectionneurs aussi de porcelaine. Et en fait, à cette époque-là, au XVIIIe siècle, c'était une approche très sensualiste de la Chine, parce qu'on pensait que le savoir, les idées provenaient des sens, de manière assez empirique, que justement, par le toucher, par le goût, par justement l'approche matérielle, on pouvait déployer des idées. Ça aidait à penser. Et c'est pour ça que pendant le tea time, en fait, les aristocrates aimaient toucher des céramiques, des porcelaines chinoises, les goûter, prendre le thé, cette nouvelle boisson en fait avec le café, le chocolat, le thé. Donc la Chine participait en fait d'une expérience presque totale des sens pour infuser, faire infuser aussi des idées, faire venir des idées, les échanger dans l'art de la conversation. Donc la Chine était goûtée, incorporée en fait à un mode de vie aristocratique. Mais à cette époque-là, c'était une Chine qui était déjà européanisée, c'est-à-dire on rêvait, on se projetait en fait plus qu'on ne cherchait l'authenticité. voyez? Et ça, j'ai montré en introduction des vases qui étaient montés. En fait, c'est comme si la Chine était embrassée à sa, à son propre, à sa propre préférence. En fait, on rêvait la Chine plus qu'on ne l'étudiait finalement de manière très historique précise. Donc c'est sûr que c'est on n'a pas attendu le pillage du palais d'été pour voir un afflux d'objets en provenance de la Chine et même du Japon, hein. Mais c'était un art de l'élite et des chinoiseries. Le mot a été inventé à ce moment-là. On essaie de faire chinois justement pour et c'est un art réservé plutôt à une certaine élite. Et aussi beaucoup de peintres, notamment par exemple Huet, Boucher, en fait, imaginent des chinoiseries, voilà, ce rêve en chinois. Voilà. Donc, c'est en plus, on est dans une recherche de l'exotisme et du rêve, du fantasme via l'essence. Et ça change, il y a une démocratisation, en fait, un afflux quantitatif à partir des années 1860. Et là, on change d'époque, si je puis dire. Donc, jusqu'aux années 1850. C'est ce mode-là, même si le goût de la chinoiserie passe un peu. On est plus, en fait, et ce sera une transition la séance prochaine, on est plus dans une transition, enfin, plus sur un goût des armes orientales. C'est ça qui est chic, dans les années 1830-40. Mais ça, ce sera la semaine prochaine. J'espère vous voir. Si vous êtes disponible, ce sera, je serai ravie d'échanger à nouveau avec vous.
Je n'ai pas mobilisé la parole non plus. Je me demande quel est le rapport, parce que je sais que Paris, c'est un centre très important de vente d'objets, mais qu'en a-t-il d'autres pays? Et est-ce qu'il y a de. Comment. Si vous arrivez à comprendre comment ça s'est passé l'influence mutuelle entre pays? Je pensais pendant votre présentation, par exemple, sur des objets asiatiques au tournant du siècle avec les acheteurs allemands. On sait qu'à cette époque-là, les musées allemands se remplissent énormément de chinoiseries. Ah, d'accord, c'est pas cette séance.
Effectivement, celui-ci est plus conséquent et celui-ci est extrêmement riche, mais en porte d'entrée, nous avons celui-ci qui est très synthétique, qui effectivement parle exactement de ce dont vous venez de parler, Léandro. Je ne saurais que vous inviter à prendre connaissance de cet ouvrage qui est disponible avec nos collègues de la librairie pour une somme très très modique dans quelques minutes.
Merci Rachel, mes cœurs sur vous. Mais en effet, là, j'ai essayé justement en discutant avec Rachel de distinguer des aires culturelles. C'est vrai que le but, c'est de les tenir ensemble. Et donc, on hésitait soit à un découpage chronologique, soit à un découpage géographique. On s'est dit que c'était peut-être la meilleure façon, peut-être la plus accessible, abordable, disons, pour faire une sorte de grande fête. Mais en effet, en fait, j'essaie de tenir ensemble tout en même temps. Et en fait, chaque fois, les préférences évoluent à chaque période. C'est assez drôle de voir. Justement, moi, je suis moi-même surprise de mes propres données. J'en dis pas plus, mais la semaine prochaine, il y a un résultat qui m'a vraiment surprise en croisant justement tous ces objets. Et c'est ça, on se laisse surprendre par ces données. Et c'est un peu l'instant frisson de la recherche après des heures et des heures de base de données. Infiniment, merci d'être venu. Merci. Et merci.